محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فقد قال جل وعلا في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. أخواتي وإخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بحاجات مختلفة.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères, mes chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Azza wa Jal a créé cet homme avec des besoins.
فالإنسان يحتاج أن يتنفس في كل ساعة بل في كل لحظة. الإنسان يحتاج إلى الطعام، إلى الشراب، إلى الأبوين، إلى كل شيء. الإنسان مركب من الحاجات، في كل لحظة وفي كل ساعة هو محتاج. وأما الله سبحانه وتعالى فصفة من صفاته هو صمد. الصمد يقول أهل اللغة، وهذا ليس بالتشريع بل هذا ترجمة فقط للفظ الصمد، الذي يستغني عن الكل والكل لا يستغني عنه أبدا.
Le Cheikh il dit, Allah Azza wa Jalla a créé cet homme avec des besoins. Toute sa vie, c'est une constitution de besoins. Les besoins à chaque instant, les besoins de respirer, les besoins de manger, les besoins de vivre, de travailler, tout type de besoins. Et Allah Azza wa Jalla est sans besoin. Il a le nom en arabe qui est Samad. La définition de ce mot, ça veut dire c'est celui dont il a besoin de personne. Et toute chose a besoin de lui.
عامة الإنسان يحتاج إلى من هو أكبر منه، كالولد يحتاج إلى أبويه، وتارة الإنسان يحتاج إلى من يساويه، كالزوج يحتاج إلى زوجته والزوجة تحتاج إلى زوجها، وتارة الكبير يحتاج إلى الصغير، كالعجوز يحتاج إلى الولد. فالله نفى عن نفسه هذه الاحتياجات كلها فقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، فإذا كان ربنا هكذا فكبره تكبيرا.
الله أكبر.
الله عز وجل a fait de cet homme, c'est-à-dire trois types de besoins dans sa vie. Il peut avoir besoin de quelque chose qui est supérieur à lui, comme par exemple l'enfant pourrait avoir besoin de ses parents qui sont plus grands que lui. Aussi, l'homme, il peut avoir besoin de quelque chose qui lui est égal. Tel l'homme, par exemple, pour vivre, a besoin d'une épouse, d'une femme qui l'accompagne dans sa vie, et vice-versa. Une femme aussi a besoin d'un homme qui vit avec elle. Aussi, Allah, il a créé pour cet homme un autre type de besoin qui est le plus vieux, a besoin du plus jeune. Tel, par exemple, le vieillard qui a besoin de quelqu'un de plus jeune pour l'assister, pour lui donner de l'aide. Mais Allah Azza wa Jal a arrêté, c'est-à-dire il a stoppé tout type de besoin à son égard. Et il a dit dans le sens du verset, et c'est lui qui n'a pas pris d'égal dans le sens du verset, qui n'a pas un wali qui est plus fort de lui dont il a besoin. Et lorsque vous pouvez arrêter le jeune, s'il vous plaît. Walid, c'est ton fils. Et lorsque on sait toutes ces qualités qui sont à Allah Azza wa Jal, on doit le grandir en disant Allahu Akbar.
Inna al-ba'ra la yadullu ala al-ba'ir wa inna athar al-aqdam la tadullu ala al-masir. Fas-sama'u dhat al-abraj wal-ardu dhat al-fijaj والبحار ذات الأمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ إن البعر لا يدل على البعير وإن آثار الأقدام لا تدل على المسير. فالسماء ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج والبحار ذات الأمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير.
Et dit toute chose dans cet univers témoigne de l'existence d'Allah, tout comme les excréments d'une bête lorsqu'on marche sur terre et on voit les excréments d'une bête, on sait qu'il y a une bête qui est passée. Lorsqu'on voit les traces des pas, on sait que quelqu'un est passé par cet endroit-là. Aussi, mes chers frères, la création d'Allah, les cieux, la terre, dans leur création, c'est-à-dire l'extrême complication, complexité de cette création, ne peuvent que témoigner que de la création, qu'il y a un créateur derrière, que c'est Allah Azza wa Jalla.
دعا الله العرب إلى التفكر في خلق الله، فالله بين وضرب لهم مثال الجمل، مع أن كل شيء دل على قدرة الله، السماء والأرض والبحار، ولكن الجمل أمام العبد وأمام السيد، أمام الغني وأمام الفقير، ومن أجل ذلك يقول العلماء وبين العلماء من أحسن التعليم أن يقدم أمام التلميذ شيء يتعارف به، فالعرب كلهم كانوا يتعارفون بالجمل، فمن أجل ذلك خص الله في هذه الآية إلى التفكير فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
الله عز وجل s'est adressé aux Arabes avec des exemples vivants dans leur quotidien. Il aurait pu leur parler, il a le pouvoir et la possibilité de leur parler de la création des cieux, de la terre, de l'univers, mais il s'est adressé à eux en citant quelque chose que tout le monde côtoie, le riche, le pauvre, l'esclave, le maître, toute personne côtoie, c'est le chameau. Et il a cité le verset, est-ce que, pourquoi ne voit-il pas comment le chameau a été créé.
ولا شك يا إخوان والأخوات أن أكبر حاجاتنا هو القرب إلى الله وهو الغفران من الله. لنا حاجات وتستمر حاجاتنا وتزداد حاجاتنا. كنا صغارا فكنا نظن إذا قضي هذه الحاجة لا تبقى حاجة بعد ذلك، ولكن كما نزداد في عمرنا تزداد حاجاتنا ولا تنتهي له ولا تنتهي. الإنسان يتمنى ويتمنى ولا حد له ولا نهاية له، كما قال صلى الله عليه وسلم ولن يملأ فاه إلا التراب. لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون واديان، ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولن يملأ فاه إلا التراب. فهذا يزداد يوما فيوما. أكبر حاجاتنا بلا شك ولا ريب هو الغفران من الله والقرب إلى الله.
Et dit mes chers frères et sœurs, les besoins de l'homme, sont sans fin. C'est-à-dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans le hadith, si un homme il détient une vallée de d'or, il souhaiterait une deuxième. Et seule la terre va remplir la bouche de cet homme-là. Il dit les besoins, ils sont sans fin dans cette vie. Et plus on avance dans l'âge, plus les besoins sont nombreux. Et le seul véritable besoin, c'est la proximité d'Allah afin d'obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jalla.
لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم بالطائف وخالفه أهل الطائف، فدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم مشهور، وهذا الدعاء طويل جدا، ولكن بعض القطعة من الدعاء: إن لم تكن علي غضبك فلا أبالي، إن لم تكن علي غضبك فلا أبالي، غير أن رحمتك هي أوسع لي.
Le dua que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait à Taïf lorsqu'il était contraint, il était dans une mauvaise posture, il attire notre attention sur une partie de ce dua où il dit « Oh Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, alors je me fiche de ce qui peut arriver comme difficulté. »
Wa rahmatullah wa ghufranullah a'ammu wa awsa'u mimma nadhunnu wa nahsib. ولكن المشكلة أننا ما اجتهدنا لنكون مستحقين لغفران الله، لنكون مستحقين لرحمة الله. كان أعرابيا يدعو في الحديث فدعا فقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعة لقد ضيقت واسعة رحمة الله وغفرانه أوسع شيء لماذا جعلته ضيقا أنا لو سمعت أحد يدعو له ولي أنا أقول هذا طيب هذا ممتاز هذا جيد أنا وأنت شامل في رحمة الله خلاص لا نحتاج إلى شيء فوق ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه بلطف وحذره بلين فقال لقد حجرت واسع رحمة الله أوسع
Et sachez mes frères que la miséricorde d'Allah c'est ce qu'il y a de plus vaste, c'est ce qu'il y a de plus large. Et juste la question c'est comment nous on va œuvrer, on va travailler, on va faire l'effort pour mériter cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et dit un jour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu un bédouin en train de faire un dua où il dit dans le sens Oh Allah pardonne à moi ainsi qu'à Muhammad, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne pardonne à personne d'autre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec gentillesse, avec douceur, il est venu lui dire mais pourquoi tu limites quelque chose qui est déjà qui est illimité en vérité. La miséricorde d'Allah elle n'a pas de limite. Alors pourquoi toi tu veux la limiter à seulement toi et moi? Et il dit si c'était quelqu'un de nous, on aurait très bien accepté, on serait même heureux qu'on ait une spécification comme ça, particularité que pour nous, c'est-à-dire pour l'homme et pour moi. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu lui expliquer et expliquer à toute la umma que la miséricorde d'Allah c'est quelque chose de illimité.
فجاء صحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال واذنوبا واذنوبا نحن نقول وحزنا نحن نقول وثكلا نحن نقول وجبلا هكذا نقول وهذا الصحابي اتى وماذا قال واذنوبا يعني ان الذنوب اثقلت عليه كأن وجدت ذنوبه ثقيلة وهذا من شأن المؤمن من شأن المؤمن كما روي في الحديث أن المنافق إذا أذنب يظن أن الذباب جلس على أنفه وأن المؤمن إذا أذنب يظن أن الجبل سقط عليه فقال وذنوبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم وقال اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي فهو دعا بهذا الدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد هذه الكلمات فأعاد الكلمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم قد غفر الله لك
Il dit un homme pour illustrer la miséricorde et le pardon d'Allah Azza wa Jal un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant une parole il était en train d'expirer un peu un souci où il dit oh mes péchés Il dit les communs des musulmans, plutôt quand ils disent ce genre de paroles lorsqu'ils ont des soucis, lorsqu'ils ont des problèmes. Il dit oh mes problèmes, oh ma maladie, oh ceci, oh cela. Mais ce sahabi-là, il disait, il avait comme souci ses péchés. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ce sahabi dire ça, il lui a dit, dis ces paroles-là. Il dit, dans le sens des paroles, oh Allah, ta miséricorde est plus vaste que ton pardon est plus grand que mes péchés et ta miséricorde est plus grande que mes péchés alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit à ce sahabi de dire ces paroles là puis il lui a dit de les répéter encore jusqu'à il lui dit lève-toi, tous tes péchés sont pardonnés
لقد سهرت أعيننا في حياتنا لأسباب عديدة وهل مرت ليلة من الليالي فيها ما نمنا لأجل حزننا على ذنوبنا؟
Il dit combien de nuits nous avons passé à veiller dans différentes causes pour de différentes causes. Et est-ce que maintenant on se pose la question, est-ce qu'il nous est arrivé de passer des nuits dans une tristesse concernant nos péchés?
حسن بصري رحمه الله كان صائما وكان وقت الإفطار. وفي وقت الإفطار قريب من المغرب كان جائعا وغربت الشمس فأراد أن يفطر وسمع التالي يتلو إن لدينا أنكالا أنكال يعني نيكل تعرف ما يقيد به السجين مفهوم؟ إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة ما يتتعتى لا يستطيع أن يبتلع وطعاما ذا غصة وعذابا أليما فهذه الآية تأثرت على قلبه ما استطاع أن يأكل فهو جائع غربت الشمس سمعت الآية ولكن الآية تأثرت على قلبه فما أكل. اليوم الثاني مضى وهو صام. بعدين في وقت المغرب تذكر نفس الآية التي سمعت من قبل فما أكل في اليوم الثاني. وفي اليوم الثالث صار مريض فأتى الناس إلى ثابت البناني ورغبوه: أنت قريب من حسن بصري، قل له من فضلك أن يأكل وإلا سيموت.
L'histoire de Hassan al-Basri radiyallahu anhu, il dit c'était le ramadan et avant le iftar, avant l'heure du manger, c'était presque le maghrib, le soleil s'est couché, et au moment où il allait rompre le jeûne, il a entendu quelqu'un qui lisait le Coran où il cite le verset dans le sens où Allah azza wa jalla l'a fait dans le jahannam, il a fait des attaches, des menottes qui vont attacher les gens. Et aussi, il dit en parlant des gens de l'enfer, que eux, on va leur donner une nourriture qui passera même pas leur gorge. Quand il a entendu ce verset-là, Hassan al-Basri, l'appétit est parti. C'est-à-dire, il n'a pas pu manger, en pensant à ce qu'il y a dans ce verset-là. Puis, il n'a pas mangé. Puis, il a passé toute la nuit, et puis toute la journée encore. Et le jour suivant, à la même heure, au même moment de rompre le jeûne, il s'est rappelé encore de ce verset-là, puis pareil, il n'a pas pu manger, il a enchaîné encore une deuxième journée de jeûne, la troisième plutôt, et là, la troisième journée, il était carrément tombé malade, jusqu'à qu'on ait dit, les gens autour de lui sont partis voir un ami à lui, qui était proche, pour lui dire, vas-y, va voir Hassan al-Basri et incite-le à manger parce qu'il va périr.
يقول أحد: أتيت إلى تميم رضي الله عنه حتى أسأله شيئا فوجدته يصلي وهو يكرر آية من القرآن. أم حسب الذين اجترحوا السيئات ارتكبوا السيئات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الذين ارتكبوا وأفسدوا وظلموا وعصوا وطغوا هل هم يظنون أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم مع الصالحين الأتقياء الأبرار يوم القيامة؟ هو لم يزل يكرر هذه الآية من الليل للصباح.
الصحابي aussi, Tamim, رضي الله عنه, un homme est venu le voir le soir, et il l'a trouvé en prière en train de répéter un verset. Ce verset-là, il le répétait en prière toute la nuit. Toute la nuit, il répétait. Le sens de ce verset, c'est est-ce que les gens qui osent transgresser en faisant des péchés, est-ce qu'ils osent penser qu'ils seront comme ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres? Ça, que ce soit dans leur vie ici-bas, que ce soit dans leur akhira, et ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris du tout la chose. Et il a pas cessé de répéter ce verset en prière toute la nuit.
فأقول مرة أخرى إخواني وأخواتي أن رحمة الله وغفران الله هذا أعم وأوسع مما نظن ونحسب، فعلينا أن نجتهد حتى نستحق ونكون مستحقين لرحمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحدكم إلا برحمة الله في الجنة. هذا مفهوم الحديث وليس ألفاظ الحديث. فقال: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيقول العلماء: إذا كان أحد يدخل الجنة برحمة الله فلماذا نكلف أنفسنا بالطاعة؟ إذا كان أعمالنا لا تدخلنا إلى الجنة فلماذا نتحمل ونطيع المشقة للعبادة؟ فأجاب العلماء بأن الإنسان بالطاعة يكون مستحقا لرحمة الله، وبعد ذلك تنزل عليه الرحمة. أضرب لكم مثالا: أنت تريد أن تسافر إلى بلد فتقول: لي علاقة مع فلان، هو يجهز لك التعشير. هو يجهز لك التعشير ولكن لازم تأتي بالجواز، لازم أنت تأتي بالجواز. ما شاء الله عندك علاقة وهو يسهل لك ويرتب لك كل الترتيب، ولكن إذا لم تجد عندك جواز لنفسك فعلى من يجعل التعشير؟ فكل واحد يطيع ربه حتى يستحق رحمة الله ثم تنزل عليه الرحمة وبسبب دخول الرحمة يدخل الجنة إن شاء الله.
Il dit sans doute la miséricorde d'Allah c'est quelque chose de très vaste, de illimité. Mais cette miséricorde là il faut la mériter. Il faut la mériter parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit personne ne rentre au paradis si ce n'est par la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah. On lui a même dit: même pas toi, ya Rasulallah. Il a dit: même pas moi. sauf si Allah me fasse vraiment miséricorde. Mais la question que des gens se sont posées, si c'est qu'avec la miséricorde d'Allah qu'on rentre au paradis, pourquoi alors nous astreindre à accomplir des choses, des actions, à l'obéissance d'Allah, à faire des actions? Alors les savants, ils répondent à cela qu'avec les actions d'obéissance à Allah Azza wa Jal et de s'astreindre et de s'éloigner de la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, avec cela, on mérite cette miséricorde d'Allah. Et dis, je donne un exemple pour mieux comprendre. Si quelqu'un veut voyager dans un pays, et pour se rendre dans ce pays, il a besoin d'un visa pour se rendre. Donc il a une relation avec une personne là-bas qui peut lui faire des papiers d'invitation, ainsi de suite. Mais ces papiers-là ne suffisent pas par eux-mêmes. Ce qu'il faut avant tout, c'est d'abord, il faut être titulaire d'un passeport. Avec ce passeport-là, on peut faire toutes les autres procédures. Sans ce passeport, on peut rien avoir. Même si on a toutes les connaissances du monde dans ce pays-là, mais on ne pourra pas obtenir de visa pour pouvoir voyager dans ce pays.
أنا كلما أقرأ هذا الحديث أنا أتعجب وأستغرب من قدرة الله ومن رحمته ومن غفرانه على عباده وعلى أنامه. يا عبادي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هذا طيب غفرته يعني الله يغفر، ولكن هذه في الحديث الأخير هذا اللفظ ما يعجبني كثيرا، ولا أبالي بذلك. يعني أرحم الإنسان بين الخلق الأم المشهور، إذا ناديت أمك فأنت تطلب الرحمة والرأفة. حتى يقول العلماء أن موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع من طور وهو التقى مع أخيه ورأى ما رأى وحدث ما حدث ووقع ما وقع من عبادة العجل، فغضب على أخيه يا ابن أمة. فهو لما غضب على أخيه وألقى الألواح، يعني التوراة كانت مكتوبة بألواح فوضعها، يقول العلماء أن الألقى مراد أنه وضعه بسرعة، وما المراد بأنه ألقاه وصبه أو طرحه أو نبذه، إلا أنه وضعه بسرعة، ولكن القرآن بينه بهذه الألفاظ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يعني هو عاتب أخيه، هو نبه أخيه. فلما عاتبه ماذا قال الأخ؟ يا ابن أمة، أي ابن أمي. لماذا خاطب أخاه بابن الأم؟ يقول العلماء بهذه العلاقة هو طلبها الرحمة، لأن الأم تنادي الرحمة بسبب، وقال يا ابن أبي أو أخي أو شقيقي أو أخي، لا يا ابن أم. فالمراد بالأم هو طلبة الرحمة، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. واستدل العلماء من هذه الآية أن جميع الأنبياء كانت عندهم لحيات، وكانت لحية طويلة حتى أخذ بلحيته. إذا كان اللحية قصيرة كيف لا تمكن أن تمسك به، لا تأخذ. شوف القرآن يا إخوان، شوف القرآن، القرآن كلها مملوء مليان بالدلائل، مكتوب مع الأسف نحن ما توجهنا إلى القرآن. لا تأخذ بلحيتي، فاللحية من سنن الأنبياء وكانت طويلة حتى قبضه، لا تأخذ بلحيتي. فالأم يعني تساوي الرحمة والرأفة. مع ذلك الأم أيضا إذا تزوج الولد وهو رجح زوجته على أمه، وهو فضل زوجته على أمه، الأم هو تسامح عن ابنها ولكن لا تزال تلومه، أنت فعلت، أنا لا أنسى، لقد أحزنتني وفعلت، أنا لا أدري هنا يقول هكذا أو لا. نفس الشيء خلاص. ومن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ووعدنا من أشراط الساعة، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أدنى صديقه وأقصى أباه، أدنى صديقه وأقصى أباه، وأطاعت زوجته وعق أمه. نسأل الله الأمن والحفاظ، ونسأل الله أن يرشدنا ويوفقنا، وأن نعدل بينهما، لأن الرجل هذا أمر خطير بين أمه وبين زوجته، فله حقوق هنا وله حقوق هنا. جمع الفوائد النبي صلى الله عليه وسلم.
Il dit, j'ai lu beaucoup un hadith et à chaque fois que je lis, je médite dessus et je suis en admiration face à ce hadith. C'est le hadith Qudusi où Allah Azza wa Jal dit, ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent les hauteurs du ciel, et puis tu viens à moi, c'est-à-dire le jour du jugement, sans rien m'associer, alors je te pardonne tous tes péchés sans aucune préoccupation. Et dit, j'admire ces paroles-là, j'admire le mot, il dit, là où Bali, ça veut dire je sans considération. C'est-à-dire je me fiche de ce que tu peux, les quantités de péchés avec lesquelles tu viens à moi, dès lors que tu n'associes rien à moi, alors je pardonne. Il dit, ça c'est la rahma d'Allah Azza wa Jal. Et à ce sujet, il dit, cette rahma, elle est vraiment, mais beaucoup, beaucoup plus supérieure à celle de la maman. Alors que la maman, on sait que c'est une la mère, c'est quelque chose, c'est un être qui est rempli de miséricorde, surtout à son enfant, envers son enfant. Il dit même Moussa alayhi salam, Moussa, lorsqu'il est parti dans la montagne, vous connaissez l'histoire, il est revenu, puis il a trouvé son peuple en train d'adorer le veau, et puis il s'est mis en colère contre son peuple, puis il a pris son frère Haroun alayhi salam. Et il commence à le réprimander, à lui parler durement. Et il dit, il a posé les plaques, la loi. Il les a posées, puis il a pris son frère, il le tire par sa tête. Puis le frère, Haroun, alayhi salam, il dit à son frère, Moussa, il dit au fils de mère, fils de ma mère. Il dit là, c'est vraiment un petit signe où on voit qu'à travers cette formulation, fils de ma mère, ça veut dire qu'il est en train d'invoquer le nom de la mère pour s'attirer le pardon de Moussa alayhi salam, pour que Moussa le pardonne, pour que Moussa lui fasse miséricorde par rapport à ce qui a été commis comme péché. Donc là, le mot de la mère, il est vraiment, il a une signification très forte. Il aurait pu dire « Oh mon frère », ou alors il aurait pu dire « Oh fils de mon père », ou alors il aurait pu l'appeler directement au Moussa, ou au prophète, ou n'importe quelle autre appellation, mais il a sciemment choisi cette appellation avec le fils de ma mère pour lui rappeler la maman et la miséricorde qu'il y a derrière une maman pour c'est-à-dire obtenir le pardon de son frère. Et lui, ici une parenthèse, il parle, il lui dit ne prends pas ma barbe, ça veut dire et là c'est une preuve encore une fois dans le Coran. Il dit malheureusement nous on lit le Coran mais on n'a aucune méditation sur son contenu, et il y a toutes les preuves possible et imaginable dans le Coran. Il dit, ça veut dire tous les prophètes là, c'est un signe, une preuve qu'ils tous ils avaient la barbe. Et c'est pas une petite barbe, c'est une barbe qu'on peut, en fait, lorsque une situation l'impose, la tenir et la tirer même. Donc il lui a dit, ne tire pas ma barbe. Ça veut dire il a pu la tenir, il a pu la tirer. Ça veut dire elle est d'une certaine longueur. C'est pas une petite barbe, c'est une certaine longueur. Ça c'est une parenthèse. Et il dit, la miséricorde de la mère c'est quelque chose de très 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 fort. C'est ce qu'il y a de plus dans cette vie-là. Et il dit, c'est pour ça on doit faire attention à nos mères et ne pas, c'est-à-dire manquer le respect qu'une mère mérite. C'est vrai que l'homme, surtout lorsqu'il se marie, il est partagé maintenant, son cœur il est partagé entre son épouse et sa mère. Et il dit, bien sûr, nous, le musulman, il doit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il doit faire l'équilibre entre toutes, c'est-à-dire chaque ayant droit, il lui donne son droit. C'est-à-dire les droits de la maman sont vraiment les droits de la maman. Les droits de l'épouse, c'est aussi les droits de l'épouse. Et on doit concilier les deux. Ça ne veut pas dire on fait un contre l'autre. Et il dit un des signes de la fin des temps, le cheikh cite, c'est que l'homme, il commence à s'attacher plus et à pencher plus vers ses amis et délaisser son père, l'amitié de son père, et aussi penche plus vers l'épouse et laisser le droit de la mère. On demande qu'à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve, qu'il nous protège de toutes ces dérives-là.
كان الصحابة يحتاجون إلى كري النحر. كان شق على الأنصار النواضح أي إبل السقر في حياة الصحابة الرواية. فكانوا يحتاجون إلى حفر النهر. فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هم تشاوروا فيما بينهم وأتمروا فيما بينهم واجتمعوا وأرادوا وراحوا ومشوا فلما قربوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النية طلبا لحفر النهر استقبلهم الرسول ورحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالأنصار مرحبا بالأنصار شوف البشارة شوف التهنئ إيش قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأنصار لا تسألون اليوم شيئا إلا أعطيتكموه ولا أسأل الله لكم شيئا إلا أعطانيه. فقال بعضهم لبعض مباشرة اغتنبوها وسلوه المغفرة. اتركوا النحر، النحر تكون أو لا تكون، إن أنا لم أفز بمراد سعي وكم من حسرة تحت التراب، إن أنا لم أفز بمراد سعي أنت فزت وأنا لم أفز، ولكن كلنا ندفن. إن الحبيب من الأحباب مختلسوا، لا يمنع الموت بواب ولا حرسوا، فكيف تفرح بالدنيا وزينتها من يعد عليه اللفظ والنفس. قد كان قصرك ذا شرف فقبرك في الأجداث منجرس، لا يترك الموت ذا جاه لعزته ولا الذي منه العلم يقتبس. إن أنا لم أفز بمراد سعي وكم من حسرة تحت التراب، يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا، يقول المرء مالي وفائدتي وتقوى الله أفضل ما استفادا. فهم
يجي ان جو امدين الصحابه
خلاص يفهمون الشعر، الحمد لله
الحمد لله
يفهمون.
Il dit un jour à Médine, les Sahaba, les Ansar, les gens de Médine, se sont réunis pour un besoin. Ils voulaient aller voir le prophète. Pourquoi ? Parce que ils voulaient creuser une espèce de tranchée pour amener l'eau, une espèce de petite rivière comme ça, pour amener l'eau, afin de faciliter que leur chameau, c'est-à-dire ils puissent boire plus facilement. Alors ils se sont réunis entre eux et ils ont décidé, voilà, on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander. Et ils ont fait un comité, ils se sont dirigés vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus venir à lui, il s'est levé pour les accueillir. Il leur a donné des belles paroles comme ça. Il a dit, oh, bienvenue au Ansar. Bienvenue au Ansar. Sachez que, quoi que vous me demandez, je vous donnerai. Avant même qu'il s'adresse à lui. Et sachez aussi, quoi que je demande à Allah azza wa jal pour vous, Allah il vous donnera. Il dit ces deux paroles-là. Les Ansar radiallahu anhum, sahaba, et là on voit le fikr des sahaba radiallahu anhum, il dit directement leur besoin a changé et se sont reconcertés de nouveau. Eux ils sont venus pour une affaire de dunya, pour creuser une petite tranchée pour amener l'eau. Puis ils se sont dit, et si on lui demande la maghfira, le pardon d'Allah Azza wa Jalla, ils se sont dit ça. C'est directement leur objectif a changé. Il dit c'est comme ça que nous devons être. Avoir une pensée pour la akhira, pas pour la dunya. C'est ça le plus important. Même si on a toutes les choses de cette dunya, il a cité une suite de vers de poésie où le sens il dit, c'est-à-dire quoi que tu amasses dans cette dunya, quoi que tu aies dans cette dunya, sache que la mort n'a pas de garde. C'est-à-dire la mort quand elle vient, elle ne demande pas l'autorisation, elle vient et elle prend directement. La mort tu passeras. Quoi que tu demandes et quoi que tu as comme objectif dans cette dunya, sache que tu seras enterré, tu seras mis sous terre. Et quoi que les gens ont dans cette dunya, leur fin c'est le qabr. Et leur fin et leur véritable objectif en vérité, c'est l'akhir.
مرة أحد قبل أن أكمل هذه القصة أتى في قلبي شيء حتى أنقل إن شاء الله إن شاء الله ستفهمون و تقدرون هذه بالعربي أحسن إن شاء الله، ولكن الأخ إن شاء الله سيحاول أن يترجم. هو بنى بيتا فأجمله وأحسنه وكمله، فهو دعا صالحا من الصالحين وقال شوف وتعال وادعو لنا في بيتنا حتى نتبرك بحضورك وبقدومك وبمجيئك. فالصالح هم الصالحون هم لا يتأثرون، نحن مع الأسف الشديد نتأثر من كل شيء. فقال ما شاء الله بنيت هذا البناء الجميل والقصر الرفيع، هذا سرور لولا أنه غرور، ونعيم لولا أنه عديم، وملك لولا أنه هلك، وفرح لو لم يعقبه ترح، ولذات لو لم تقترن بآفات، وكرامة لو صحبتها سلامة.
Il dit, un homme, ça c'est juste une petite histoire comme ça qui vient. Il dit, un homme, il a construit une maison. Et cet homme-là, pour amener un peu de baraka dans cette maison-là, il a invité un homme pieux. Et cet homme pieux, bien sûr, c'est un homme pieux. Donc il n'est pas touché par toutes ces choses de dunya. Alors il est parti. Il dit, c'est pas notre cas à nous. Nous, si on est invité à ce genre de situation, quelqu'un, il a une grande maison, tout ça, on va être touché par la maison. Mais cet homme pieux, il n'est pas touché. Il lui a dit, viens, comme ça tu fais le dua dans ma maison, comme ça il y a la baraka dans ma maison. Et grosso modo, ce qu'il a dit, il dit, ça c'est, à chaque fois il disait, c'est une bonne chose, s'il n'y avait pas une mauvaise qui venait derrière. S'il n'y a pas, ça c'est, par exemple, il dit, c'est un farah, c'est-à-dire c'est du bonheur. Si on savait qu'il n'y avait pas le malheur qui venait après, concernant le hisab, concernant tout type de choses. Donc à chaque fois il disait, c'est une bonne chose, quand si au moins il n'y avait pas cette mauvaise chose qui venait derrière.
فنعود إلى القصة. هؤلاء الأنصار لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم وعدهم بما طلبوا وبما تمنوا منه صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لبعض اغتنموها وسلوه المغفرة فاجتمعوا على ذلك واتفقوا على ذلك. نحن لو قيل هكذا يقول أنت تريد المغفرة طيب أما أنا أريد ما أريد المغفرة إن شاء الله على حاله. لا كلهم اتفقوا كلهم رضوا على هذه لأن طلب الغفران هذا أكبر شيء في جميع الصحابة كل واحد كان هذا في قلبه. حتى أنا قرأت علامة قاروفي رحمه الله وقال شيء ممتاز لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة على نبوته إلا الأصحاب الذي ترك لكفوه في إثبات نبوته لكفوه في يعني لو لم يكن مع أن مجلدات ومؤلفات كاملات ضخيمات على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كيف أشار إلى القمر وكيف كلم معه الإبل وكيف كلم في حياة الصحابة كان صلى الله عليه وسلم يمشي ومعه أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بي فقال أنا أؤمن بك إن صدقك هذه الشجرة فقال طيب ترين هذا قال طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الشجرة فأقبلت تخد الأرض خدا أي تشق الأرض شقا فقال عليه الصلاة والسلام من أنا؟ فقال أنت رسول رب العالمين. قال سمعت يا عربي؟ قال سمعت وآمنت. ثم رجعت إلى مكانها.
Il dit pour revenir à l'histoire de Sahaba, donc à Médine, tous d'une manière unanime, ils étaient d'accord pour transformer leur requête, leur besoin de la demande là, d'une tranchée, de creuser une tranchée, vers quoi? Vers la maghfira d'Allah Azza wa Jalla, le pardon d'Allah. Il dit si c'était nous, on serait déjà en désaccord. Ah, toi, tu veux le pardon d'Allah? D'accord, ben mets-toi de côté, nous on a nos besoins. D'abord on va voir ça et après on verra pour la maghfira après. Il dit, Sahaba radiallahu anhum, tous ils étaient d'accord. Un des grands savants de hadith, il dit si un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il est venu avec énormément de miracles dans sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'avait aucun miracle avec lui, seul les compagnons, ses compagnons radiallahu anhum suffisaient pour prouver sa prophétie. C'est-à-dire s'il n'y avait aucun autre moyen de prouver la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste ces compagnons-là, avec leur qualité, avec leur niveau, ça aurait suffi pour prouver la prophétie de Nabi alayhi salatu wa sallam. Il dit, bon, il y a des livres et des livres qui parlent et qui montrent les miracles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Hayat Sahaba par exemple, comme cette histoire où il était avec un bédouin, il marchait, puis il lui a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à ce bédouin, est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu peux, c'est-à-dire tu veux bien croire en moi? Il lui a dit, ô Muhammad, si cet arbre-là, l'arbre, et il a montré l'arbre, il lui a dit, si cet arbre croit en toi, je vais croire en toi. Il lui a dit, vraiment, c'est ce que tu veux. Il lui a dit, d'accord. Puis il fait signe à l'arbre de venir. Et l'arbre se déplace et creuse la terre d'une manière vraiment brutal comme ça. Il vient jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Puis le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, il parle, il s'adresse à l'arbre, il dit, qui suis-je? Et l'arbre parle, il dit, tu es le Muhammad, le prophète d'Allah Azza wa Jalla. Il dit au bédouin, est-ce que tu as entendu? Il lui a dit, oui, j'ai entendu et j'ai cru, je crois. Et puis l'arbre est retourné à sa place et resté là où il est. Donc les preuves d'Allah, les preuves de la prophétie d'Allah, il y en a beaucoup. Mais ce savant-là, il dit, s'il n'y avait pas toutes ces preuves-là, tous ces miracles, seule la venue des compagnons radiallahu anhum aurait suffi.
فهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وهم أخروا حاجاتهم في الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولأزواج الأنصار وفي رواية ولجيران الأنصار.
Lorsque ils ont donc formulé cette demande à Nabi صلى الله عليه وسلم du pardon, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce dua connu, « Oh Allah, pardonne aux Ansar, et pardonne aux enfants de Ansar, et pardonne aussi aux enfants des enfants de Ansar. » Et il dit aussi, il y a une autre version, « Et pardonne à tout le voisinage des Ansar. »
وَالدُعَاءُ الْوَاحِدْ مِنْ حَبِيبِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدٍ يَكْفِيهِ.
Et dua de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour l'un de nous, ou n'importe quelle personne, ça lui suffit.
هل أنتم تعلمون أنه مروي في الحديث أن الكفار واليهود كانوا يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. العطاس لا يمكن أحد أن يبطأ أو يؤخر لأن العطاس تأتي فتأتي. تثاؤب قيل لنا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان والعطاس من الله. فعلينا أن نكذب التثاؤب. وأما العطاس فمن الله. لماذا؟ لأن التثاؤب بعد ذلك يأتي الكسل والفشل والضعف، فالإنسان لا يتحرك إلى العبادة. أما العطاس فهذه فطرة في الإنسان. فكانوا يتعاطسون عند رسول الله حتى يقول رسول الله يرحمك الله، طالبين لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا هداكم الله هداكم الله، لأن كان أكبر شيء لهم الهداية، أكبر شيء لهم الهداية. ولكن حتى الكفار هم كانوا في قصة أن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أتى إلى صحاب ودق الباب وقرع الباب وقال السلام عليكم ورحمة الله، فأجاب الصحابي وعليكم السلام ورحمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم مرة أخرى فأجاب الصحابي وعليكم السلام ورحمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سمع شيئا فدق مرة ثالثة وسلم، فهو أجاب وعليكم السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يسمع شيئا هو رجع، فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرجع سارع إلى الباب وفتح الباب وقال يا رسول الله تفضل. فقال قد سلمت ثلاث مرات وأنت ما أجبتني. قال يا رسول الله لو أجبت بصوت جهر لما سلمت علي مرة ثانية، وأني أتمنى التسليم منك مرارا وتكرارا، فأجبت سرا حتى تزيد على السلام، ولما رأيت أنك انتهيت ورجعت فتحت الباب. فيقول العلماء أن هذا كان مبني على حب هذه الصحابي، ولكن هذا ليس من العذاب لأنه سوء الأدب، سوء الأدب، مع أن هذا الصحابي ما أراد ذلك. بعدين يأتي الشيخ إلى بيتك وقرع الباب وقال السلام عليكم السلام عليكم السلام، قال لا 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 لا، هذا كان محمول في قلب هذا الصحابي لأجل حبه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نأمر به أحدا.
Pour revenir à l'importance du dua de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son importance, il dit même les non-musulmans à son époque, les chrétiens, les juifs, tout ça, tout type de non-musulmans, ils cherchaient à avoir un dua de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en croyant que son dua il est quand même très important. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient se mettre à côté de lui et ils faisaient semblant d'éternuer. Il dit l'éternuement c'est un réflexe. Mais eux, ils venaient, ils faisaient semblant. Il dit dans le hadith, l'éternuement, c'est d'Allah. Et le bâillement, c'est de Shaytan. Alors on essaye de vraiment garder le bâillement, parce que ça amène à la fainéantise et à être lourd. Et l'éternuement, c'est la rahma d'Allah. Et dit ces gens-là venaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et faisaient semblant d'éternuer pour que le nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Yarhamukumullah » pour que miséricorde à vous de la part d'Allah. Mais lui, il savait ça, mais il disait que Allah vous guide, qu'Allah vous guide. Il dit ça, c'est les non-musulmans. Un sahabi, maintenant, pour montrer comment leur amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi, bref, il raconte l'histoire. C'est un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient chez lui et il toque la porte et il dit « Assalamu alaykum ». Sahabi, radiallahu anhu, il répond doucement « Alaykum salam ». Il répond d'une voix basse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas entendu la réponse de ce sahabi. Alors, il toque la porte une deuxième fois, il reformule une deuxième fois le salam, il dit « Assalamu alaykum ». De la même manière, sahabi, il répond avec une voix basse. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas entendu. Et il refait encore une troisième fois. Et la sunnah, c'est trois fois. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a toujours rien entendu. Alors il s'est dit, il fait demi-tour pour repartir. Et à ce moment-là, sahabi court à la porte. Et il ouvre la porte. Et il dit à Rasulullah, rentre, bienvenue. Il dit, mais c'est étrange. J'ai dit, une première fois, j'ai toqué. Une deuxième fois, j'ai toqué. Il dit à Rasulullah, excuse-moi, mais voilà, j'ai fait exprès en fait. J'ai baissé la voix exprès pour pas que tu m'entendes. En fait, je voulais que tu refasses encore le salam sur moi une deuxième fois, et encore une fois le salam sur moi une troisième fois. Pourquoi ? Parce que j'aime que tu me fasses le salam, que tu fais le doua du salam sur moi. Il dit, mais attention, faut pas prendre cette histoire comme une pratique, parce que ça rentre dans le mauvais comportement en fait. Si quelqu'un, il vient te visiter sous prétexte, un chir ou quiconque, il vient et te dit salam, tu le fais pas entendre la réponse, ça rentre dans le mauvais comportement. Mais là, c'est spécial au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi spécial à cet homme-là, ce sahabi-là. Il a fait ça, sans trop le savoir, pour s'attirer la miséricorde et le doua de Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
فالإخوان طولنا أنا حقيقة ما بدأت البيان صحيحا هذه فقط التمهيد للبيان ولكن قد طولنا المهم أن نرجع إلى ربنا وكيف تأتي في حياتنا سنن الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة من حيث الزوج كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يغلبن كريما ويغلبهن لئيم فأحب أن أكون كريما مغلوبا ولا أحب أن أكون لئيما غالبا من طباع النساء يغلبن كريما إذا كان كريم وشريف ولين المرأة ما شاء الله عندها القوات أنا أضرب لكم مثال كنا مرة صدقني كنا في سياحة كانت لي برنامج في سريلانكا وبعد ذلك رحنا بجنبه هناك ما اسمه هذا المكان مشهور جدا في العالم مالديفز سمعت عنه الناس لما يتزوجان يذهبان العروس وكذا كل شيء ممتاز جيد خلاص لا لك مرة أخرى إن شاء الله تعرف هناك قصة أنا أقول لك قصة حقيقة هذه الرجل هو تزوج فكانت عنده بنات ثم تزوجت الأخرى أنا لا أدري هل أقول طيب إن شاء الله أقول تزوجت الأخرى فرزق الله الولد فرزقه الله الولد فهو سمي بأبي حمزة وكان البيتان قريبان متقاربان وكان يذهب إلى بيته الثاني الذي رزقه الله فيه الولد فقالت زوجته الأولى ما لأبي حمزة لا يأتينا ولا يلقى بالبيت الذي يلينا أغذبان ألا نلد البنين هذا ليس بعيب فينا نحن كالأرض لزراعينا ننبت ما قد يوضع فينا خلاص هذا كلام ثاني أقول لك نحن كنا هنا في مالديف فكنا نتجول ونستريح وكان ممتاز جدا ثم رحنا إلى مالي هذه العاصمة فلما كنا هنا مضينا يوما هنا أخذنا السيارة الأجرة وكنا نطوف بالبلد فالسائق كانت مشكلة بيننا وبينه بالتكلم لأنه لا يتكلم أنا أتكلم بحمد الله خمس لغات ولكن هو لا يتكلم أحد منهم وهو له لغات ولكن أنا لا أتكلم فأشرنا وفعلنا وهو فعل وبعد ذلك كانت عنده جوالة فهو سمع الجوالة وأجابت أحد اتصلته فهو بدأ لما يتكلم على الجوال قال لي صاحبي أقول لك بالضبط هذا الرجل يتكلم مع زوجته مع أننا لا نفهم شيئا ولكن الأسلوب ولغة الجسد وكيف يقول وكيف يعتذر بالأسلوب قال أقول لك يا حبيبي أن هذا الرجل يتكلم مع زوجته فأنا قلت لا نحن ما فهمنا شيئا من كلامي كيف تقول أنا أقول لك أنا أقول لك صدقني فأنا قلت طيب أنا أرى وأشوف كلمنا فيما بيننا بلغتنا فهو لما أغلقت الجوال قال سامحوني زوجتي أنا قلت سبحان الله أصبت ضربت المسمار على الرأس فأنا قلت كيف وقال لا هي شكت وقال أنت تأخرت وما أتيت إلى البيت وأنا اتبخت وأنا أنتظر لقدومك فأنا قلت كنا نظن أن هذا مشكلة في جنوب أفريقيا فقط ولكن أتينا إلى المالي ووجدنا نفس الشيء أن المرأة تبخت وهي انتظرت وأنا تأخرت تقول بالإنجليزي هناك مثلا الرجل لما يقول أنه يرجع خمسة دقائق له مثل المرأة لما تقول أنها تجهز نفسها في خمسة دقائق تعرف لما يخرج أحد ويقول لا خمسة دقائق فالرجل لما يكون خمسة دقائق له معناه كالمرأة لما تجهز نفسها وتلبس وتجمل وتحسن هذه الخمسة لا تنتهي والرجل خمسة دقائق له لا ينتهي أبدا خلاص هذا فهم من فهم طيب أنا أقول لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغلبن كريما ويغلبهن لئيم كيف كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجاته يا إخوان خيركم لأهله خيركم لأهله إذا كان أحد يراقبه أحد وهو يخاف فهذا ليس الخوف من الله ممكن الكاميرا أو يمكن أحد رقيب عليه ولكن من الذي يخشى ربه ويطيع ربه في بيته وهو المسؤول وهو الراعي وهو الرقيب في بيته خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي
الله Il dit, pour revenir au sujet... Il dit, pour revenir au sujet, parce qu'il dit, on a commencé le discours, c'était comme une introduction, mais le sujet que je voulais aborder, il dit, c'est le comportement de l'homme à l'égard de sa famille, à l'égard de sa femme, de ses enfants, tout ça, la famille. Il dit, c'est... Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici, dans un hadith, dans le sens, il dit, il explique que... Il donne une image que les femmes ont une emprise sur celui qui est généreux, qui est facile avec eux, et n'ont aucune force contre celui qui est dur contre elles. Alors il dit, je préfère être marlouk, ça veut dire je préfère être, c'est-à-dire je préfère être avoir moins d'emprise en étant généreux. Que l'inverse. Vous avez compris ? C'est-à-dire, je préfère être sous l'emprise et tout en étant avec un noble caractère que l'inverse, que d'être dur et ayant la force. Et il dit le shir, ça concerne surtout dans les affaires de dunya, les affaires de mondaine, pas dans les choses de la religion.
نحن نكون أقوياء في أمور الدنيوية وضعفاء في أمر الدين.
Il dit, nous, c'est l'inverse. Nous, on est dur, c'est-à-dire intransigeant, concernant les choses de dunya, mais très relax, très cool, lorsqu'il s'agit des choses de din. Et donc, il explique, voilà, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça, sa ligne de conduite, c'est d'être sous l'emprise et avec un noble caractère, bien sûr, quand il s'agit des choses de dunya, et pas l'inverse. Et il cite que l'homme, il est tout le temps sous l'influence de sa femme. Il dit, nous étions dans un voyage, et très vite, on a compris, il raconte une histoire que j'abrège un peu à cause du temps. Il dit, on était dans le taxi, un homme qu'on ne comprend pas du tout sa langue, il ne comprend pas du tout notre langue, mais un des frères avec qui il était, il a dit, celui-là, voilà, il s'adresse à son épouse. Pourquoi ? Parce que tout change lorsqu'il parle avec elle, la manière comment il parle, la manière comment il réagit. Et lorsqu'il a raccroché, en effet, il a dû leur expliquer à peu près que là, il était en train de parler avec son épouse et elle se plaignait parce qu'il était en retard. Et il dit, chaque minute qu'on est en retard avec nos épouses, c'est une éternité en vérité pour elle.
ذكر ابن الجوزي في إعلام النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة فقط، هذا يسمى بحجة الوداع وحجة الإسلام، ليس لحبيبنا صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، لا نلتقي في هذا مرة أخرى، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما حج مع أزواجه الطيبات الطاهرات الزاكيات كلهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هناك عائشة رضي الله عنها خفيف في جسمها، وكانت متاعها خفيف أيضا، وكان صفية رضي الله عنها كانت متاعها ثقيلة وجملها بطيئة، فبسبب ذلك تأخرت وبطئت، وببطوئها تأخرت وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم لتأخيرها، وتأخر الناس لتأخير النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟
نعم.
فكانوا ماشين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فكر ودبر، وكان مدبر صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم مدبر. يقول شيخ سعيد خان صاحب رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار في سفر الهجرة وقرب الأعداء من فم الغار وخاف أبو بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظنك يا أبا بكر بإثنين الله ثالثهما، كما أن الله بين في القرآن: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر أبا بكر بأن الله معنا، ولكن بسبب معية الله ما خرج من الغار، بقي في الغار. فلازم نعرف هذا، لا، المكان للتوكل والمكان للتدبير. بعض الناس يظنون مراد التوكل ترك التدبير، لا 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 أبدا وكلف ألف كلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: ما ظنك يا أبا بكر بإثنين الله ثالثهما، ولكن بقى ما قال أخرج الله معنا، لا. فعلينا أن نفهم هذا الشيء. سيدنا يعقوب لما أرسل أبناءه: يا بني لا تدخلوا من أبواب واحد، لماذا؟ يمكن يصيبكم الحسد. كل واحد أولاد واحد، لباس واحد، لسان واحد، من أبوكم؟ لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. لكن ماذا قال؟ هذا التدبير، ولكن التدبير ليس مؤثر الحقيقي. وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، فعليكم أن تعملوا بما قلت، ولكن عليكم أن لا تعتمدوا على ما فعلتم، مفهوم؟ ومن أجل ذلك ماذا قال؟ وإنه لذو علم. بعد ذلك أتى بهذه الآية في القرآن في سورة يوسف: سمى الله يعقوب بذي العلم. يقول العلماء: لماذا؟ جميع الأنبياء أصحاب العلم، ولكن في هذه الآية خص الله ذكره بأهل العلم، لأنه عرف مكان التدبير والتوكل.
Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque c'était le pèlerinage d'Adjou, le dernier pèlerinage, d'ailleurs l'unique pèlerinage de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce pèlerinage-là dans lequel il a insisté, parce qu'il savait pertinemment que ça allait être le seul pèlerinage qu'il allait faire, il a insisté, il disait aux sahaba: prenez de moi vos rites. Prenez les rites de votre pèlerinage de moi, en disant que c'est le dernier, en faisant signe que c'est le dernier de ces pèlerinages. C'est le seul d'ailleurs. Il dit, lorsque ils étaient en voyage, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris ses épouses avec lui. Et une de ses épouses, Safiya, elle avait beaucoup de bagages avec elle. Et donc son chameau, il était plutôt lent. Alors il était tout le temps retardé. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à son tour aussi, il était et s'attardait au retard de sa femme. Et ainsi, tous les musulmans, ils étaient aussi en retard à cause du retard de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec tout cela, il était dans l'organisation. Il était tout le temps en train de penser comment organiser. Et il attire notre attention sur l'aspect de l'organisation. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a l'aide d'Allah avec lui. Comme il cite l'histoire, quand il était avec Abu Bakr dans la caverne, dans le Ghar, et les non-musulmans venaient les attaquer, il dit: n'aie pas peur, Allah est avec nous. mais malgré que il a la certitude, il dit une parole que Allah est avec eux, mais c'est pas pour autant qu'il a pris la facilité de sortir en étant tranquille, parce que si, dès lors que Allah est avec toi, tu peux faire ce que tu veux. Non, ils se sont quand même restés et se sont aussi cachés. De la même manière, il cite l'exemple de l'histoire de Youssef alayhi salam avec ses frères, son père. Lorsque le père dit à ses enfants, quand ils vont en Égypte, vous allez venir, n'entrez pas tous par la même porte, mais dispersez-vous. N'entrez pas tous par le même endroit, deux par-ci, deux par-là, trois par-ci, trois par-là. Pourquoi ? C'est l'organisation, c'est le tertib. Il est en train de penser. Malgré que c'est des prophètes d'Allah. Et donc, ils ont le yaqin d'Allah. Mais là, il fait vraiment la part des choses entre le tawakkul et l'organisation. Beaucoup de gens pensent que le tawakkul, ça vient mettre fin à l'organisation, l'aspect de l'organisation. Il dit non et mille non derrière. Il dit l'un n'empêche pas l'autre. Mais Yaqub alayhi salam, Allah il l'a mentionné dans le verset d'après que c'était quelqu'un qui est doté de science, c'est quelqu'un qui a de la science. Pourquoi il explique? Parce qu'il a pu concilier, il a pu faire la part des choses entre le tawakkul et les asbab, les deux. Il disait faites confiance à Allah, faites ce que je dis, mais ne comptez pas sur ce que on fait. Faites ce que je dis parce que voilà, c'est le tawakkul, mais ne comptez pas avec votre cœur sur ce que vous faites, la chose elle-même, mais comptez plutôt sur Allah Azza wa Jal. Donc de concilier deux choses, qui est le yaqin, le tawakkul sur Allah Azza wa Jal, et aussi l'autre partie, c'est de faire les asbab et de faire les causes.
طيب ان شاء الله نكمل الان سامحونا طولنا عليكم
Inch'Allah, maintenant le temps il est imparti, il est un peu dépassé même, et il y a un reste de programme pour eux, Inch'Allah.
فالنبي صلى الله عليه وسلم هو فكر ودبر وقال حولوا متاع صفية على جمل عائشة ومتاع عائشة على جمل صفية حتى نسرع في السير.
Alors pour revenir à l'histoire, le voyage vers le pèlerinage, Nabi صلى الله عليه وسلم il pensait, donc il a donné l'ordre de prendre les affaires de Safiya sur le chameau de Aïcha, et inversement pour qu'on aille un peu plus vite.
ولكن انت تعرف لا تاخذ من المراه شيئا الا باذنها.
Et vous savez, il faut rien prendre, surtout d'une femme sans consentement.
ابدا ابدا ابدا.
Jamais jamais jamais.
المراه ما شاء الله انا لا ادري عندكم عندنا ما شاء الله هي تطبخ الطعام للجماعه جزاها الله عنا ولكن تكتب اسمها على الاواني. تكتب اسمها على الاواني. هذه الانيه لزوجة فلان أو لأم فلان وعنوان بيتها كذا حتى يرد من المسجد إلى بيتها.
chez nous, je sais pas chez vous comment ça se passe, mais chez nous, nos femmes, nos épouses, mashallah, elles sont très généreuses, elles font le manger pour le jamaa lorsqu'il y a le jamaa et tout. Mais une particularité, c'est qu'elles inscrivent leur nom, elles le gravent même sur les ustensiles, sur les assiettes et tout ça. Ça appartient à la famille un tel, la femme d'un tel ou la mère ou un tel, ainsi de suite. Pourquoi? Pour que ce qui lui appartient retourne certainement à la maison.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بطبيعه الخير ولكن أمنا رضي الله عنها غضبت وقال غلبتنا هذه اليهودية هذه الكافرة. يعني أشارت أمنا عائشة رضي الله عنها إلى صفية لأنها كانت من قبل ما كانت مسلمة كانت بنت حيي بن أخطب غلبتنا هذه على رسول والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهو قائد الأمة وهو رأس الأمة وهو في السفر تعرف الولد هو يقول شيئا أو يجيب شيئا في بيته شيء ولكن إذا خرج الرجل مع أولاده ومع النساء وهو في المطار والولد أجابه بغليد ماذا نفعل نحن ماذا نفعل نحن نريد أن نظهر أمامنا أننا في القوة وأننا في السيطرة وزوجته رضي الله عنها وكانت أزكى النساء وكانت أعقل النساء رضي الله عنها قال غلبتنا هذه على رسول الله ونسبت إليها الكفر فأبو بكر رضي الله عنه لأنها كانت من قبل ولكن أسلمت هذا في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية رضي الله عنها فرأى في عينيها خضرة ورأى في عينيها سوادة فقال يا صفية ما هذه؟ قال يا رسول الله رأيت كأن قمرا وقع في حجري، رأيت كأن قمرا وقع في حجري. فقلت لزوجي السابق الذي كنت متزوجا معه أنني رأيت في الحلم هكذا، فأجاب الزوج وقال تريدين ملك يثرب، تريدين أن تتزوج مع نبي العرب؟ فقال لا بس أنا أبين أمامك الحلم ما رأيت، وبعد أن زوجني الله معك الآن تحققت هذه الرؤية. فأنا أكمل هذه القصة بعدين ننتهي إن شاء الله الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيئا، عرفت الآن هي لحظة للمرأة، نتركها نتركها. شوف تحمل حبيبنا صلى الله عليه وسلم، تحمل حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فتقدم أبو بكر رضي الله عنه وزجره، فخلصها النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وقال يا أبا بكر لا تتقدم لا تتقدم. فقال يا رسول الله ولكن هل سمعت ماذا قالت لك؟ هل سمعت ماذا قالت بنتي لك؟ قال يا أبا بكر إن المرأة إذا غضبت وغلبتها الغيرة هي لا تعرف الفوق من التحت واليمين من الشمال.
الله أكبر لا إله إلا الله.
Donc pour revenir à l'histoire, leur voyage à la pour le pèlerinage. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit d'échanger les bagages. Puis Aïcha radiallahu anha elle a formulé une remarque un peu dure à l'égard de sa fille radiallahu anha.
Wa fi riwaya aydan ba'da dhalik awalan hiya ghadibat thumma qal awalasta nabiyya Allah. Qala ya rasul awalasta nabiyya Allah. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala aw fi shakkin anti. Allahu akbar. Ya rab ya rab ya rab. كم كان حلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل أو لست تزعم أن نبي الله؟ فقال أو في شك أنت، هل أعدلت؟ هل أعدلت؟ إذا كان أنت كنت أنت نبيا فهل أعدلت؟
الله أكبر.
Et donc elle s'est un peu emportée, Aïcha radiallahu anha, et a dit oh celle-là nous retarde, celle-là la mécréance, c'est-à-dire en faisant allusion à ses origines. Qui c'était des juifs de Médine. C'est la fille d'un des grands juifs de Médine qui est rentré, bien sûr, par la suite dans l'islam. D'ailleurs, il parle, une parenthèse, concernant son islam. Avant, bien avant l'islam, elle a vu en rêve qu'une lune, lui tombait sur elle, quoi. Et elle raconte ce rêve-là à son ancien époux juif. Elle lui raconte, voilà le rêve, il lui dit, toi, tu veux te marier avec le roi de Yathrib, en faisant allusion au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, non, c'est pas ce que je veux. Et finalement, c'est ce qu'il y a eu. Allah, il a réalisé ce rêve-là, et elle a raconté ce rêve-là après au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une parenthèse. Et ensuite, donc, Aïcha, elle était sous l'énervement. Elle dit, et tu prétends, toi, tu veux même pas être juste, alors que tu prétends être le prophète d'Allah. C'est-à-dire, elle lui dit des paroles comme ça dures. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, est-ce que t'as un doute? Il parle à Aïcha radiallahu anha. Et lorsque le père de Aïcha, qui est Abu Bakr radiallahu anha, entend des paroles comme ça, il voulait directement intervenir pour faire du tort, en fait, à sa fille. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, non, t'occupe pas, elle est juste énervée, c'est rien, c'est pas grave, il faut la laisser parce qu'elle ne voit plus clair, elle est sous l'énervement. Elle ne voit plus clair, donc il lui dit de la laisser. Combien donc le comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à son égard, surtout qu'ils étaient en voyage, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de sahaba autour, des gens ont entendu cet incident. Donc quelqu'un qui est un commandant, un commandeur de gens, c'est difficile pour lui de vivre une situation pareille où il est humilié par son épouse devant tout le monde. Mais malgré cela, lui il a pu maintenir un niveau de comportement exemplaire. Il était doux, il dit c'est pas grave, il disait c'est pas grave, il était là doux avec sa femme malgré ce qu'elle a dit.
انتهي بهذا ان شاء الله القصه الوجيزه سطرتين من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لامنا عائشه رضي الله عنها انا عارف جيدا متى انت زعلان معي ومتى انت راض عني.
Il dit pour terminer, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha radiallahu anha, je sais très bien quand tu es satisfaite de moi et quand tu es au contraire énervée contre moi.
فقالت أمنا وكيف؟
Aïcha radiallahu anha l'a dit et comment? Vas-y dis.
فقال لما تكون راضيا عني وتحتاجين إلى الحلف تقول لا ورب محمد.
Il dit je le reconnais parce que quand tu es content de moi, que tu es que tu es satisfaite un peu de moi et que tu as besoin de jurer, tu dis par le Seigneur de Muhammad. C'est-à-dire tu mentionnes mon nom lorsque tu jures.
ولما تكون ساخطة عني وتحتاجين إلى الحلف تقولي لا ورب إبراهيم.
Et lorsque au contraire tu es contre moi et tu es énervé, tu veux pas trop de moi et tu veux jurer, tu dis par le Seigneur d'Ibrahim.
فأجابت أمنا رضي الله عنها لا أهجر إلا اسمك.
Il dit, t'inquiète pas, si je ne mentionne pas, je ne mentionne pas que ton nom, c'est tout. C'est que ton nom que je veux ne pas mentionner.
وكيف نتعامل مع جيراننا وكيف نتعامل مع أزواجنا الدين كاملة كاملة في كل شيء سيدنا عمر رضي الله عنه رأى في قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فهو دخل في قلبي وقال يا رسول الله أنت أحب إلي من جميع الناس إلا أنا استثنى نفسه ولكن صدق هو كان صادقا وقال يا رسول الله أنا أحب نفسي أولا بعدين أحبك وأحبك قبل الجميع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تخرج هذا الاستثناء لا يكمل الإيمان ثم أدخل نظره في قلبه وتفكر وقال الآن ما بقي أي استثناء الآن أنت أحب إلي من نفسي أيضا فقال صلى الله عليه وسلم الآن كمل الإيمان.
Il dit, mes chers frères, que la quête de chacun d'entre nous soit de compléter la religion dans notre vie. Et la religion n'est pas seulement la mosquée, n'est pas le fait de passer le ramadan, n'est pas aussi que le fait d'aller en khuruj fi sabilillah ou aller dans les lieux saints de l'islam. Non, la religion c'est partout, dans n'importe quel endroit. Et aussi c'est le comportement que nous avons à l'égard des gens autour de nous, dans nos familles, notre voisinage, les gens qu'on rencontre, c'est partout la religion. Elle n'est pas limitée à un endroit ou à un temps particulier. Et c'est ça la religion complète. Et c'est pour ça que chacun de nous doit faire l'effort pour accomplir et pour acquérir toute cette religion complète. Le suivi de la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même lorsque, il prend l'exemple, Omar radiallahu anhu, un jour il était avec le prophète, et le prophète il parlait et dit que la foi complète c'est lorsque on aime Allah et son prophète plus que toute chose. Omar il a pris un instant comme ça méditant en lui-même, il lui a dit à Rasulallah je t'aime plus que toute chose mais pas encore plus que moi-même. Il lui dit alors t'es pas encore, la foi complète n'est pas encore en toi. Puis il a encore marqué un temps en méditant encore un peu plus, il a réfléchi, puis il a dit à Rasulallah maintenant je t'aime plus que moi-même. Il lui a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, oui, la foi, elle est complète en toi. Donc le but, comment compléter, mes chers frères, toute cette foi, cette religion, là où nous soyons, là où on se trouve, sans limite de temps, d'espace.
فالاختلاف بين الزوجات, بين الزوج والزوجة, لا محال. أنا أقول دائما مثل الاضطراب الجوية للطائرة. تعرف الاضطراب الجوية؟ هذا لا يمكن الاستثناء منه. أحسن طائرة ركبتها, ولكن الاضطراب الجوية فجأة. تتغير الأحكام والقواعد في الاضطراب الجوية وفي الاستواء فإذا كان في الاضطراب الجوية لازم تجلس ولازم لا تأكل الآن ففي البيت في أي وقت تكون حتى أنا زوجتي أقول صدقني هي تقول إذا وقع الاختلاف لازم أنت تخرج هذا السي دي أنت تخبر الناس تسمع ما تخبر وتعمل على ما تقول تقول لي دائما جزاها الله أنا الحمد لله أشكرها ولكن هي تقول لي ما شاء الله بينت وحكيت وأخبرت لازم أنت تأخذ هذا وتجلس وتسمع ما تخبر الناس حتى تعمل أنت في بيت طيب إن شاء الله إذا قيل لحبيبي من أنا.
Il dit, certes, les relations entre hommes et femmes, l'époux et l'épouse, c'est bon, il y a tout le temps des moments un peu plus difficiles. Il dit, pour imaginer cela, je donne l'exemple des turbulences. Lorsqu'on se trouve dans l'avion, n'importe quel avion, quelle que soit la marque et la grandeur de l'avion, il y a toujours, à un moment donné, des turbulences. Et lorsqu'il y a les turbulences, on a les consignes qui
viennent.
Et les turbulences,
il
n'y a pas une annonce préalable pour dire attention, dans 10 minutes, tu vas avoir des turbulences. Ça vient d'un coup.
Et ساعة خمسة دقائق عشرة دقائق هذا
هذا هذا. on peut pas dire, on peut pas dire au moment des turbulences combien de temps ça va durer. Ça peut durer quelques minutes, quelques. Et c'est pareil dans les relations hommes-femmes, on peut, il y a les turbulences et on peut pas savoir quand est-ce qu'elles viennent et quand elles viennent, elles viennent d'un coup et on peut pas savoir combien de temps avant rester.
أجمل طائرة أحسن طائرة جديد طائرة هل نستطيع أن نقول ما شاء الله هذه الطائرة الجديدة الآن خرجت من المسنى الحمد لله نعلن ونتقن أن هذه الطائرة هي خالية من الاضطراب الجوي هل سمعت الطيار يعلن هكذا أبدا وأبدا.
Et jamais on verra que une compagnie aérienne achète un nouvel avion dernier cri où ils disent, ils annoncent, vous inquiétez pas avec cet avion, il y aura aucune turbulence et vous serez pas du tout dans la gêne. Et dit jamais on entendra, jamais. Et dit, c'est l'image donc des turbulences, quand ça vient, on a des consignes de sécurité qui viennent et qu'il faut appliquer, ça veut dire il faut s'asseoir, il faut s'attacher, il faut rester calme, il faut arrêter peut-être de manger, de faire des choses. De la même manière, quand il y a les turbulences qui viennent, eh ben il faut s'asseoir, il faut se calmer, il faut arrêter des choses qu'on peut-être qu'on faisait, et en attendant que ça aille mieux. Et ça va toujours mieux. Ça va toujours mieux.
Après, elle dit, je vois que ce soit sa femme, elle dit qu'il faut
quelque chose. Et moi, c'est pareil. Même moi, il dit, ça m'arrive quand à la maison, il y a un peu des turbulences. Et dit, ma femme, que je remercie au passage, qu'elle est beaucoup patiente, mashallah, elle a beaucoup de qualité, je lui remercie. Il dit, elle me dit, hein, toi tu parles, hein, t'aimes bien parler aux gens, faire les bayans, les discours, prends les CD, mets-le, et écoute un peu ce que tu dis aux gens et tu appliques. Hein, comme ça, tu t'arrêtes un peu de faire que parler. Donc il dit, ah, d'accord, j'écoute et tout, j'essaye de m'améliorer.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
هذه الفرصة يا دي هذه الأيام أيام الأطلاع قريب إن شاء الله في رمضان في جوية أوت إن شاء الله هذه يمكن فرصة يخرج مع النساء يخرج يعني طلبات كثير شباب الأخدام والنساء مع الرجال هذه الأيام إن شاء الله يشكل أحباب في انطريع داخل كذلك وأحباب إن شاء الله في أمامنا موجودين هم يكون إن شاء الله من مستعدين إن شاء الله
Le Cheikh y rappelle...